Très bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La loi anti-casseurs portée par le gouvernement divise les députés, même dans la majorité. Et ils ne cachent plus leurs interrogations, leur scepticisme, vous l'entendrez. Nous nous pencherons aussi sur l'idée d'un fichier anti-casseurs, peut-être redondante et anticonstitutionnelle.
Les couches jetables pour bébés sont pleines de substances chimiques, l'agence de sécurité sanitaire alerte. Vous l'entendrez ce matin, les fabricants sont convoqués par le gouvernement.
Dans cette édition, nous irons au Venezuela, où débutera dans quelques heures une mobilisation générale contre et pour le gouvernement. L'opposition, vous le comprendrez, se réorganise.
Et puis les taxis catalans espèrent convaincre leurs homologues européens de rejoindre leur grève illimitée. Ils protestent contre une législation trop souple en faveur des VTC, les voitures avec chauffeur.
Après ce journal, dans son billet politique, Frédéric Saïz analysera comment les partis européens d'extrême droite cherchent à s'unir en ce moment. Le projet de loi anti-casseurs avait été proposé par la droite sénatoriale à l'automne, puis adoubé par le gouvernement début janvier suite aux violences lors du mouvement des Gilets jaunes. Le voilà donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale en commission des lois. Et cela commencerait presque à être récurrent, la majorité gouvernementale se déchire à son propos. Une loi inutile, voire dangereuse, disent certains députés de La République En Marche. Sacha Houlier, par exemple, député de la Vienne, il s'interroge sur la pertinence de plusieurs mesures destiné à éviter ou à sanctionner les casseurs. Selon lui, le texte du gouvernement donne aux préfets trois prérogatives démesurées.
La première, c'est les périmètres de protection dans lesquels, quand les gens pénètrent à l'intérieur, ils sont fouillés. C'est une disposition qui est quasiment identique à ce qui a été créé sur la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas la différence profonde et donc on souhaiterait même supprimer cet article. La deuxième, c'est le fichier. Le fichier des personnes recherchées, aujourd'hui, il comporte les décisions de justice qui sont définitives. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on y introduit également les interdictions administratives qui seront prononcées? De ce point de vue-là, on dit peut-être, mais cette fiche-là, elle doit disparaître dès lors que l'interdiction disparaît. On ne peut pas être fiché et ne jamais en sortir. Et puis la troisième, c'est sur la nature même des interdictions administratives. Ces interdictions administratives de manifester, elles sont inspirées de ces interdictions de stade. Elles n'ont pas été évaluées, elles présentent des difficultés par rapport à la durée pour laquelle elles sont prises. Est-ce que c'est pour une seule manifestation ou pour une répétition de manifestation? Est-ce qu'on a le temps de saisir le juge, pas seulement en référé si l'urgence n'est pas caractérisée, mais au fond? Est-ce que le juge se prononce dans un temps utile? Parce que le préfet peut très bien interdire de manifestation des casseurs, et ça, il n'y a aucun problème. Mais si le préfet se trompe, c'est possible. Comment fait-on? On interdit pendant X mois une personne de se rendre en manifestation? Non, ça, c'est pas satisfaisant, et c'est la raison pour laquelle on veut travailler les choses.
Sacha Houlier, interrogé par Rosalie Lafarge. Alors, le député de la majorité évoquait à l'instant le fichage de potentiels casseurs proposé par le gouvernement. Un fichier de plus, pourrait-on dire, Florence Turme?
La réorganisation des services de renseignement avait débouché en 2009 sur la création d'un fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Le PASP recense toujours des personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collective, en particulier en milieu urbain ou lors de manifestations sportives. Près de 45 000 personnes enregistrées en 2016, des données conservées pendant 10 ans, ce qui fait dire aux détracteurs du nouveau fichier qu'il est inutile et redondant. À une nuance près, indique Nicolas Hervieux, enseignant à Sciences Po et spécialiste en droit public.
Ce nouveau fichier tel qu'il est conçu est spécifiquement tourné vers l'efficacité du dispositif d'interdiction administrative de manifestation. Et c'est en cela qu'il peut sembler assez préoccupant, puisqu'il en vient à créer une sorte de fichage à connotation politique, puisqu'il s'agit de recenser toutes les personnes qui participent de manière régulière à des manifestations, certes avec des actions prétendument violentes. Et au fil du temps, on pourrait envisager que cette base de données accumulée sur des manifestations qu'on souhaite empêcher d'intervenir, on recense finalement une certaine catégorie de la population en raison de leurs convictions politiques et de leurs projets d'opposition au gouvernement en place.
Et c'est bien cette logique préventive que dénoncent les opposants au futur projet de loi. Certains députés prédisent déjà qu'il ne passera pas le filtre du Conseil constitutionnel, même si les sages ont déjà validé des dispositifs équivalents en matière de lutte contre les hooligans ou le terrorisme. Reste aussi à savoir s'il sera conforme aux récentes dispositions du droit européen, très regardant sur les critères de fichage et de protection des données.
Une loi controversée, nous le comprenons, qui tourne aussi à un examen de conscience sur les violences policières. Comme pour prévenir des d'éventuelles violences de part et d'autre lors des manifestations, Christophe Castaner annonce. Il souhaite que les policiers qui utilisent des lanceurs de balles de défense, que ces policiers soient équipés de caméras piétons dès ce samedi pour la prochaine journée d'action. Au ministère de l'Intérieur, pourtant, on tempère déjà. Le dispositif sera très compliqué à mettre en place et ne pourra être enclenché que par le policier qui le porte. Il n'y a pas de risque immédiat pour les bébés, mais certaines substances dépassent les seuils sanitaires autorisés. Dans les couches jetables portées par 95% des jeunes enfants en France, l'ANSES a relevé deux types de parfums, certaines dioxines ainsi que des pesticides comme du glyphosate. C'est une étude inédite au niveau mondial. L'Agence de sécurité sanitaire a analysé 23 marques, sans les citer, des couches classiques et des couches bio. Toutes sont concernées, comme l'explique au micro de Sophie Béchard. Gérard Lafargue, directeur général délégué de l'ANSES.
Il peut s'agir soit de substances ajoutées intentionnellement dans les couches, comme par exemple des substances parfumantes qui peuvent provoquer des phénomènes d'allergie chez les bébés, ou de substances qui ont contaminé les matières premières qui vont servir à la fabrication de ces couches, comme par exemple des pesticides, comme le lindane, on a pu aussi retrouver du glyphosate. Et puis les substances contaminantes peuvent être aussi des substances qui proviennent des procédés de fabrication. Les PCB, dioxines ou furanes proviennent vraisemblablement des procédés de blanchiment qui utilisent des dérivés chlorés pour ces couches. Et compte tenu des risques donc que ces substances pourraient entraîner pour la santé des bébés, on recommande en premier lieu et sans attendre d'éliminer ou de réduire au maximum la présence de ces substances chimiques dans les couches jetables. Ça, c'est des recommandations qui s'adressent directement évidemment aux industriels, puisqu'il est possible pour eux de mener des actions immédiates et sans attendre pour réduire au maximum la présence de ces substances dans les couches et donc de proposer sur le marché des couches sûres.
Les fabricants et les distributeurs de couches jetables sont ainsi convoqués en ce moment même à Bercy, reçus par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Agnès Buzyn à la santé et François de Rugy à l'écologie. Ils ont 15 jours pour éliminer les substances risquées. Ce composé-là peut présenter un risque selon sa consommation. L'alcool, dont les risques sont trop souvent ignorés. Voilà ce que disent 11 professionnels de la santé dans une tribune dans les colonnes du Monde. Ils critiquent plus particulièrement le plan de mobilisation contre les addictions 2018-2022, adopté pendant les fêtes. Un plan qui ne comprend pas, d'après eux, de moyens concrets pour lutter contre l'alcoolisme. Il y aurait même, écrivent-ils, une forme de complaisance de la part des pouvoirs publics envers le lobby de l'alcool. La preuve avec les publicités, Victoria Coussin.
Des bulles, de la mousse, des glaçons à déguster entre amis, à l'apéritif ou lors d'une partie de pétanque, les marques d'alcool rivalisent d'idées pour séduire.
Quand les enfants rentrent à l'école, ils font face à des publicités pour des bières, des whisky, etc. Y compris aux arrêts de bus.
Cette publicité, Bernard Basset, l'un des médecins signataires, ne la supporte plus. Et d'après lui, ce nouveau plan contre les addictions ne prévoit rien de concret pour lutter contre cet affichage. Pire encore, la loi Evin de 1991, qui réglemente notamment la publicité de l'alcool, ne cesse d'être assoupli.
On a progressivement réintroduit l'affichage, autorisé la publicité sur Internet, réautorisé la vente de bière dans les stades pour soutenir les petites fédérations. En 2011, c'était 100 fois plus de promotions publicitaires pour les boissons alcoolisées que de campagnes de prévention par les pouvoirs publics.
Lui et d'autres signataires ont pourtant été consultés en tant qu'experts pour élaborer ce plan sans être écoutés, d'après eux, notamment sur l'augmentation des taxes sur l'alcool, 50 centimes le verre au lieu de 12 aujourd'hui, soit 3 € la bouteille. Ce qui en plus n'est pas énorme, d'après Amine Benyamina, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris 5.
L'idée, ce n'est pas de taxer pour pénaliser la filière viticole ou l'alcool. L'idée, c'est d'éviter que l'alcool ne soit moins cher que le lot et que, d'une certaine manière, soit une initiation déguisée sous forme d'éducation au goût par les jeunes.
La jeunesse, c'est justement dans ce plan la cible principale du gouvernement, une jeunesse à protéger, car selon ces chiffres, près d'un jeune de 17 ans sur deux consomme chaque mois minimum 5 verres en une seule soirée.
Et autre chiffre parlant, l'alcool est responsable de près de 49 000 morts par an en France. Ces responsables faisaient partie des invités d'Emmanuel Macron lundi à Versailles pour qu'ils investissent en France. Pour Pourtant, à en croire les syndicats, General Electric envisage de supprimer jusqu'à 470 postes dans le pays. Il s'agira principalement de ruptures conventionnelles collectives. Seul le siège de Boulogne-Billancourt à l'ouest de Paris devrait être épargné. Les syndicats sont reçus aujourd'hui par la direction du groupe.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Nous en venons à cette question. Quelle ampleur auront les manifestations de l'opposition au Venezuela aujourd'hui?
Des rassemblements sont en effet prévus un peu partout dans le pays contre le président Nicolas Maduro et contre les répressions violentes. L'appel est lancé par Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, chef de file donc de l'opposition. Une opposition qui semble retrouver des couleurs. En moins de 2 semaines, elle est parvenue à opérer un retour en force avec 2 objectifs. Mettre en place un gouvernement de transition et convoquer de nouvelles élections, Benjamin Delisle.
Invisibles au début du mois, les députés de l'Assemblée nationale représentent désormais l'espoir d'un changement au Venezuela. 2 raisons pour expliquer cette renaissance surprenante. La première, c'est l'arrivée d'un nouveau leader, Juan Guaido. Peu connu du grand public, ce jeune député de 35 ans a été choisi par ses pairs début janvier pour présider l'Assemblée nationale. Le 11 janvier, au lendemain de l'investiture de Nicolas Maduro pour un second mandat, il se dit prêt à assumer la présidence de la République par intérim, ce qui le propulse sur le devant de la scène. Et surtout, 2 jours plus tard, il se fait arrêter par les services de renseignement vénézuéliens. Une arrestation brève, mais qui suffit à asseoir son charisme et sa popularité auprès de la population. La 2e raison, c'est la stratégie de l'opposition pour pousser les gens à se mobiliser le 23 janvier. Depuis l'investiture, les députés organisent des réunions publiques partout au Venezuela. Il y en a eu des centaines et elles ont eu un succès monstre. Toutes les classes sociales y étaient représentées et c'était l'occasion pour les citoyens de partager leurs problèmes liés à la crise économique. Il va falloir attendre de voir la mobilisation aujourd'hui pour juger du succès de l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, son retour fulgurant lui offre déjà le soutien d'un grand nombre de Vénézuéliens.
L'opposition, notons-le, qui reçoit le soutien des États-Unis par la voix du vice-président américain Mike Pence. « Nous sommes avec vous », a-t-il lancé dans une courte vidéo diffusée hier soir. Par ailleurs, les partisans du régime de Nicolas Maduro ont eux aussi prévu d'importants rassemblements ce mercredi pour défendre le président qui entame son 2e mandat. Les présidents russes Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan doivent discuter de la Syrie aujourd'hui. Ils se retrouvent à Moscou. Les Turcs cherchent toujours à empêcher toute autonomie kurde près de son territoire à la frontière syrienne. La Syrie où un attentat à la voiture piégée par ailleurs hier a fait 1 mort et 14 blessés. Cela s'est passé à l'Attaquier, l'un des fiefs du régime de Bachar el-Assad. Il n'y a pas eu de revendication. Il est là où se déroulent de nombreux échanges commerciaux et il en profite. Liam Fox, ministre britannique du Commerce, est au Forum économique de Davos en Suisse. Il va discuter avec ses homologues du monde entier pour renouveler les accords commerciaux britanniques quand le Royaume-Uni quittera l'Union européenne dans quelques mois a priori. Et déjà, d'ailleurs, une énième mauvaise nouvelle pour Londres ce matin. Sony, fleuron japonais de l'électrique, annonce qu'il déménage son siège social vers les Pays-Bas, et ce dans la perspective du Brexit. La mobilisation était dans les grandes lignes la même il y a plusieurs mois en France. C'est maintenant en Espagne que les taxis se mobilisent contre les voitures avec chauffeur, les VTC. Leur grève est illimitée depuis vendredi dernier à Barcelone, depuis avant-hier à Madrid. En Catalogne, ils envisagent maintenant de bloquer la frontière franco-espagnole avec leurs collègues européens, Sébastien Berriot.
L'objectif des taxis de Barcelone, c'est de transformer cette grève en un conflit européen. Ils considèrent en effet que leurs collègues des pays voisins sont confrontés, eux aussi, à la concurrence des VTC. Les Barcelonais travaillent donc en ce moment pour une grande opération européenne au Pertus, dans quelques jours, avec les collègues français. Jean-Claude Berceau est l'un des porte-parole des taxis de Barcelone.
Il y a des accords qui ont été faits avec les taxis de Marseille, de Paris et de Toulouse. L'idée, ça serait de pouvoir arriver à fermer la frontière des 2 côtés.
Ce qui provoque la colère des taxis de Barcelone, c'est ce projet de la Généralité de Catalogne. Normalement, lorsqu'un client fait appel à un VTC, il doit s'y prendre 24 heures à l'avance. Mais avec ce projet, le temps serait réduit à 15 minutes. Une concurrence déloyale pour les taxis traditionnels. Jean-Claude Berceau, porte-parole des taxis de Barcelone.
Ici, ils n'ont pratiquement aucune obligation. La seule obligation qu'ils ont, c'est d'acheter une licence. Les dernières licences ont été pratiquement données à 36 euros. C'est du travail qui est différent et eux voudraient faire le même travail que le taxi.
36 euros pour une licence VTC contre 135 000 euros pour une licence de taxi traditionnel. Barcelone compte au total 10 500 taxis.
Et sur les routes en France en ce moment, c'est la neige qui perturbe, comme de tradition, certains déplacements. 25 départements restent ce matin en alerte orange, du Nord-Pas-de-Calais à la Bourgogne en passant par l'Île-de-France, alerte aux avalanches dans les Pyrénées. Il n'y a donc pas de transport scolaire ce mercredi matin dans de nombreux départements du Nord-Est. C'est de la pluie par ailleurs qui va tomber sur le Sud-Est aujourd'hui. Près de l'Atlantique, quelques éclaircies sont prévues. Il fait toujours froid avec moins 8 degrés ce matin à Chamonix, 0 à Besançon et Saint-Étienne, 1 degré à Lille, 2 à Paris, 6 degrés à Brest, Bordeaux, Ajaccio, 8 la maximale ce matin à Perpignan.